Bonsoir Lionel Arré.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes directeur associé au Boston Consulting Group, spécialiste des crypto-monnaies. Et c'est pour ça que nous avons voulu vous appeler ce soir. Parce qu'aujourd'hui, Elon Musk, le fantasque patron de Tesla et de SpaceX, qui avait encensé le Bitcoin, cette monnaie virtuelle, il y a de cela maintenant quelques mois, a dit aujourd'hui, nous, on ne veut plus qu'il soit possible d'acheter des Tesla avec du Bitcoin parce que le Bitcoin pollue trop. Alors, quand on se dit crypto-monnaie, tout ça en ligne, pourquoi ça pollue le Bitcoin, Lionel Arré ?
Alors, le Bitcoin, comme beaucoup de gens le savent, c'est une monnaie décentralisée. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui s'assure que les opérations sont licites et que tout se passe bien. Donc, il a fallu inventer des procédés qui permettent de rendre tout ça extrêmement sûr. Et un de ces procédés consiste à faire travailler les gens qui enregistrent les transactions sur des problèmes informatiques très compliqués, ce qu'on appelle le minage. Mmh. Or, qui dit problème informatique très compliqué, dit puissance de calcul très importante. Et en fait, plus il y a de puissance de calcul qui est mise à l'œuvre pour résoudre ce problème, plus on augmente la complexité de ce problème. C'est un des points très importants de la façon dont le Bitcoin fonctionne.
Donc, ce qui est certain, c'est que ça utilise beaucoup d'électricité et en plus, pas toujours de l'électricité verte, parce que je crois qu'une bonne partie de ce minage, hein, comme vous venez de nous l'expliquer, Lionel Arré, il est fait en Chine. Et en Chine, on utilise encore beaucoup de centrales à charbon.
Oui, alors je pense que les gens ne réalisent pas à quel point ça utilise beaucoup d'électricité. Juste pour donner une ou deux idées, quand vous faites une opération en Bitcoin, c'est à peu près la même chose que faire tourner 5000 fours à micro-ondes pendant les 10 minutes que prend l'enregistrement de l'opération. Pour donner un autre exemple, c'est moi ce qui m'avait beaucoup frappé quand Elon Musk a annoncé qu'il acceptait ces transactions, c'est équivalent, payer une voiture en Bitcoin, c'est équivalent à faire rouler cette Tesla sur 5000 km, juste le fait de faire ce paiement. Donc ça consomme massivement de l'électricité. Alors effectivement, ensuite, les tenants du Bitcoin vous diront que c'est de l'électricité verte ou de l'électricité qui, de toute manière, ne sera pas utilisée à autre chose. Bon, dans tous les cas, je pense que l'électricité, on en a besoin. Il y a beaucoup d'usages dans lesquels on saura utiliser l'électricité verte. Et puis par ailleurs, oui, on peut douter du fait qu'un certain nombre d'acteurs de cette chaîne, les fameux mineurs, qui se trouvent en Mongolie ou en Chine, soient aussi sensibles aux critères écologiques que nous pouvons l'être. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on en arrive souvent à dire, et ça fait l'objet de pas mal de débats, mais que l'ensemble de l'économie Bitcoin, ça représente à peu près la consommation de CO2 d'un petit pays comme l'Argentine ou le Danemark.
Oui, donc c'est loin d'être mineur. Malgré tout, ce qui est assez étonnant dans la déclaration d'aujourd'hui d'Elon Musk, c'est qu'il connaît, lui, très bien ces technologies de minage, il sait très bien comment ça fonctionne, il sait à quel point ça utilise l'électricité. Comment vous interprétez son revirement du jour ?
Alors, je pense qu'il y a des gens qui se posent beaucoup de questions sur l'interprétation des paroles d'Elon Musk, et ça n'est pas que sur le Bitcoin. Je dois dire que moi, ce que je trouve totalement sensé, ce sont ces déclarations d'aujourd'hui. Ce que je n'avais pas compris, c'était ces déclarations antérieures, bon, sachant qu'elles se sont accompagnées en plus d'un mouvement dans lequel, au titre de Tesla, il avait lui-même investi dans le Bitcoin, ce qui était quand même un peu particulier. Donc non, je ne sais pas. Je peux difficilement imaginer qu'il n'était pas au courant. Est-ce qu'il en a pris plus conscience ou est-ce qu'un certain nombre de ses clients le lui ont fait remarquer, je ne sais pas, mais en tout cas, il me semble que la bonne position, c'est celle d'aujourd'hui. Mmh.
Là, quand vous nous dites la plupart des gens qui enregistrent les opérations se trouvent en Mongolie ou se trouvent dans ce genre de pays, ce qui est étonnant avec le Bitcoin et ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que personne ne sait comment ça a été créé. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas qui est l'homme ou la femme ou le groupe d'hommes ou de femmes qui a créé le Bitcoin.
Oui, on ne connaît pas le fondateur qui est censé être japonais, mais la plupart des gens doutent fortement qu'il soit japonais. Tout ce qu'il nous a laissé, c'est effectivement un programme qui permet de faire tourner le Bitcoin. Je pense que quand ça a été conçu, d'ailleurs, il n'imaginait pas à quel point ça se développerait et à quel point, justement, on se retrouverait dans cette situation où il y a des centaines de milliers d'ordinateurs qui travaillent en continu pour pouvoir intégrer les, les opérations de Bitcoin.
La sortie du jour d'Elon Musk a fait baisser assez fortement les cours du Bitcoin d'une 20% au moment où l'annonce a été faite. Alors après, c'est remonté. On est aujourd'hui aux alentours de 50 000 $ le Bitcoin. C'est énorme. La progression a été gigantesque ces derniers mois. Je rappelle que vous êtes un spécialiste des crypto-monnaies, Lionel Array. Qu'est-ce que vous prévoyez ? Alors, vous n'avez pas de boule de cristal, mais qu'est-ce que vous prévoyez pour le Bitcoin dans les années à venir ? Ça va être une vraie monnaie, d'après vous ?
Alors, d'abord, la valeur du Bitcoin, elle est essentiellement fixée par l'offre et la demande, puisque en soi, il n'y a pas de fonction autre sur le Bitcoin. Ce n'est pas une action d'une entreprise, ce n'est pas quelque chose qui produit de la valeur en tant que telle. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une très forte demande. Comme beaucoup de gens le savent aussi, il y a une limite sur le nombre de bitcoins qui existent et qui ne sont jamais produits. Donc, la rencontre de cette forte demande et d'une offre qui est limitée, ça crée cette augmentation de la valeur. On peut imaginer que ça continue parce qu'encore une fois, les volumes qui sont demandés sont très importants. Moi, je pense qu'une des difficultés, c'est quand même que ça reste très volatile puisque justement, ça ne repose que sur la confiance. Un des sujets qui pourrait casser cette confiance, c'est celui dont nous discutons ce soir, c'est le problème de la consommation d'électricité. Parce qu'aujourd'hui, les grands investisseurs sur le Bitcoin, ce ne sont plus, comme ça a été au début, des fans ou des acteurs qui étaient présents depuis très longtemps et qui donc avaient des grosses positions en Bitcoin. Les acteurs aujourd'hui qui font beaucoup des transactions sont des investisseurs institutionnels reconnus. Je pense qu'eux aussi seront sensibles à la...
Ah, mais vous pensez que d'une certaine manière, l'annonce du jour d'Elon Musk va faire dire à d'autres, parce que vous le dites, aujourd'hui les gros actionnaires, c'est notamment des grandes banques américaines, vont se dire « Oula, oui, c'est vrai que c'est peut-être pas très classe en ce moment dans nos investissements d'avoir quelque chose qui pollue autant ».
Si Elon Musk trouve maintenant que ça n'est pas une bonne chose pour la planète, j'ai du mal à voir que des grandes banques américaines puissent avoir longtemps un avis différent.
Eh bien, merci pour tous ces détails. C'était Lionel Array, directeur associé au Boston Consulting Group. Et je rappelle que vous êtes spécialiste des crypto-monnaies. Nous, on se donne rendez-vous demain, 22h20.